Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La planète est à un point de bascule. La question de la survie de l'espèce humaine ou des conditions de sa survie est posée par le réchauffement climatique. Des décisions s'imposent, mais elles ne pourront être suivies d'effets que si elles prennent en compte les phénomènes d'inégalité qui sont aussi la marque de notre temps. Ces deux questions ont été au cœur des discussions lors du traditionnel sommet de Davos en Suisse et elles sont aussi au cœur de deux livres dont nous recevons les auteurs aujourd'hui. Bonjour Michel Aglietta.
Bonjour.
Michel Aglietta, vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Nanterre, conseiller scientifique au CEPI, un des grands think tanks parisiens en économie, et aussi conseiller scientifique à France Stratégie. Vous publiez chez Odile Jacob un livre que vous avez dirigé, dont vous n'êtes pas le seul auteur, et qui s'appelle « Capitalisme, le temps des ruptures ». Ce livre, peut-on lire en quatrième de couverture, veut montrer que l'on peut civiliser le capitalisme, qu'on peut le remettre sur le sentier d'une croissance inclusive et soutenable. Et avec vous dans ce studio, Pierre-Noël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Noël Giraud, vous enseignez l'économie à Mines Paris Tech, à Paris Dauphine et à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerrier au Maroc. Vos travaux de recherche portent essentiellement sur l'économie des matières premières et sur les globalisations. Vous publiez en format poche chez Folio Actuel un livre intitulé « L'inégalité du monde ». C'est une version largement renouvelée d'un livre que vous aviez écrit en 1996, et dans lequel, en avance sur votre temps, vous annonciez que la globalisation amènerait un rattrapage des pays développés par les pays émergents et que cela provoquerait un laminage des classes moyennes dans les pays riches, ce qui s'est produit. Nous allons donc débattre de ces deux questions, le climat, le réchauffement climatique et les inégalités, et comment y remédier avec un système capitaliste éventuellement renouvelé. Ce débat sera illustré par deux reportages, l'un de Claire Bargelès sur les inégalités en Afrique du Sud, un thème hélas inépuisable, et par une intervention et un reportage de l'envoyé spécial de RFI à Davos, Mounia Daoudi. À la fin du livre collectif que vous avez dirigé, Michel Aglietta, vous actez le fait qu'il y a ce que vous appelez des dilemmes entre la protection de la biodiversité, du climat et le développement économique. Des dilemmes, ça veut dire quoi? Des contradictions?
Oui, des contradictions, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est d'abord un processus de très long terme que j'ai moi étudié depuis très longtemps et en particulier dans la perspective de Fernand Braudel, c'est-à-dire c'est un processus...
L'historien Fernand Braudel.
Donc c'est la compréhension du fait que le capitalisme est une force de transformation des sociétés et du monde, hein, mais qu'il ne se développe que par des contradictions fondamentales, qui sont les contradictions que Marx a mis en avant, vous pensez, mais qui se développent très largement au fur et à mesure où les processus de diversification des sociétés se transforment. Et donc c'est dans l'institutionnalisation des mécanismes qui permettent de réguler, en quelque sorte, ces transformations sociales qui sont liées au changement des rapports de production, donc à des régimes, si vous voulez, de croissance, eh bien, les contradictions dépassent les institutions en vigueur et qui ont permis de maintenir un régime de croissance pendant un certain
C'est-à-dire
temps.
C'est-à-dire, les contradictions dépassent les institutions. Là, les institutions, c'est quoi? C'est les gouvernements?
Alors, les institutions, c'est pas seulement les gouvernements, ce sont ce qu'on voit, j'avais appelé des institutions intermédiaires, des modes de négociation, des rapports collectifs entre les représentants des différentes classes sociales qui interviennent fondamentalement dans la logique d'évolution du capitalisme. Ainsi, par exemple, à l'après-guerre, un régime de croissance qu'on a appelé le Fordisme ou qu'on peut appeler un régime contractuel où le cœur était la régulation du rapport salaire-profit par la négociation collective, par la protection sociale. Ça, c'est de nouvelles institutions qui n'existaient pas dans les régimes de croissance.
Et donc,
d'avant.
Ce que vous expliquez, c'est que les contradictions dépassent ces institutions et les réduisent à néant.
Elle les dépasse au sens
C'est-à-dire
où...
C'est-à-dire que ces institutions sont incapables de gérer...
Non, elles sont liées, ces institutions sont liées à, en quelque sorte, un ensemble, si vous voulez, possible de rapports conflictuels qui sont permanents dans le capitalisme, en particulier si elles sont liées à un mode de développement de l'industrie, qui a été l'industrie de la consommation de masse, de la production de masse de l'après-guerre.
Et donc le réchauffement climatique à l'heure actuelle est une contradiction qui dépasse les compétences de ces institutions.
Pas celle de l'après-guerre, celle des années 80, qui ont commencé dans les années 80, et qu'on appelle le néolibéralisme, et dans lequel la finance a phagocyté l'ensemble de l'économie. En effet, ça les dépasse totalement. Et alors là, on pourra le montrer de manière précise, si vous voulez.
Dans l'émission. Pierre-Noël Giraud, vous partagez cette analyse?
Ce qui me paraît clair, les travaux de Michel Aglietta et l'école de la régulation s'inspirant de Braudel, moi aussi je m'inspire de Fernand Braudel qui est un immense penseur, ce qui me paraît clair c'est la diversité des capitalismes. Entre le capitalisme dont vient de parler Michel Aglietta, fordiste de l'entre-deux-guerres aux États-Unis ou de l'après-guerre en Europe, et le capitalisme actuel, entre le capitalisme en Afrique du Sud et le capitalisme en Chine, il y a une immense diversité des capitalismes. En l'absence d'autres modèles, un modèle soviétique, disons, ou décentralisé chinois, il n'en a pas d'autre horizon que d'essayer de construire le capitalisme adapté à nos problèmes actuels. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que il ne faut rien attendre des entreprises. Aujourd'hui, on demande aux banques de financer la transition climatique. Mais les banques, par définition, ce sont des organismes qui raisonnent à très court terme. Elles ont des actifs très liquides. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir se débarrasser des actifs bruns très rapidement.
Qu'est-ce que vous appelez les actifs bruns ?
Les actifs bruns, c'est les actifs qui polluent. Les actifs verts,
c'est le charbon, le pétrole.
Voilà, les mines de charbon, les puits de pétrole, etc. Et on attend aujourd'hui des entreprises et des banques qu'elles fassent spontanément quelque chose. Mais non, c'est un problème d'institution. C'est-à-dire, tant que les États n'auront pas changé les règles de jeu, les entreprises et les banques ne feront rien contre le changement climatique.
Alors, Pierre-Noël Giraud, de tout ça, il a été question à Davos lors du sommet mondial des grands de ce monde, le rôle du secteur privé dans la lutte contre le réchauffement climatique. On en a parlé et on retrouve, pour nous rendre compte de ce qui s'est passé, notre envoyé spécial Mounia Daoudi. Bonjour Mounia.
Bonjour Jean-Pierre.
Est-ce que la préservation du climat a occupé une place particulièrement importante lors de ce sommet ?
Écoutez, on a surtout parlé des risques que fait peser le réchauffement climatique sur l'économie mondiale et bien sûr en miroir la déstabilisation sociale que cela peut provoquer. Et comme chaque année, les ONG ont été dans leur rôle de lanceurs d'alerte. Et pour revenir à ce que vient de dire un de vos invités, Greenpeace a parlé de banques, des 10 banques qui sont des habitués de Davos et qui à elles seules ont financé entre 2015, année de la signature de l'accord de Paris, et 2018, le secteur des énergies fossiles à hauteur de 1000 milliards de dollars. Alors voilà, ça c'est un peu le constat. Et puis face aux ONG, il y a les promesses des grandes multinationales qui, comme chaque année, s'engagent à réduire leur empreinte environnementale, à s'adapter à une économie à bas carbone. Et pour le moment, c'est pas réellement ce qu'on voit. Et il y a une chose qui était assez frappante cette année, c'est la grande tendance du moment, c'est planter des arbres. Même Donald Trump s'y est mis, puisque le président américain a déclaré que les États-Unis allaient adhérer à cette initiative 1000 milliards d'arbres. Alors, c'est une initiative qui est basée sur une étude de chercheurs suisses, une étude contestée, et qui est pourtant présentée ici comme une solution miracle. Alors, pour en revenir à Donald Trump, notre très climato-sceptique président américain, lui n'a pas résisté, malgré son engagement à adhérer à cette initiative, il n'a pas résisté, il a fustigé les prophètes de malheur, les prédictions d'apocalypse. Et face à lui, il y avait la jeune militante Greta Thunberg qui est venue l'écouter et qui, elle, toujours très fidèle à elle-même, a elle réclamé un arrêt total des émissions de carbone. Et ses interventions étaient assez apocalyptiques, ce qu'avait justement dénoncé Donald Trump. Donc on a effectivement parlé climat à Davos, mais sans vraiment s'écouter. Et ça le relevait plus de la cacophonie que du véritable débat.
Pour trouver une espèce de logique, Mounia Daoudi, il faut peut-être aller voir les scientifiques qui avaient fait le déplacement pour essayer de convaincre les sceptiques que le dérèglement climatique est une réalité incontestable. Vous êtes allé à leur rencontre, Mounia Daoudi, et on écoute votre reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, on vous retrouve après.
C'est devant le Schatzsaal, un hôtel mythique de Davos où Thomas Mann aurait, dit-on, écrit la montagne magique, que pour la 4e année consécutive, des scientifiques ont installé la réplique d'un camp de base arctique. Leur mission ? Tenter de sensibiliser une élite économique mondialisée sur le réchauffement climatique. Jeremy Wilkinson est membre du British Antarctic Survey.
I'm a climate scientist. I study the Arctic Ocean.
Je suis scientifique et je travaille sur l'océan Arctique. Et ce à quoi nous avons assisté, ce sont des changements énormes. Nous avons perdu la moitié de la banquise au cours des 30 dernières années. Nous menons ces recherches depuis des années et nous avons vu ces changements de nos yeux. Regardez les communautés qui vivent en Arctique. Leurs habitudes de chasse ont changé. Même les animaux changent. Ce que nous demandons, c'est que les politiques respectent l'accord de Paris et que nous réduisions nos émissions. C'est le seul moyen pour nous de vivre dans une planète sûre.
Et qu'est-ce que vous attendez au juste des gens ici à Davos ?
D'écouter et de comprendre les faits. Les évidences sont là. Et si vous ne croyez pas ce qu'elles nous disent, regardez les faits dont vous parlent les scientifiques. Et ici à Davos, les gens sont les bienvenus à toute heure. Nous les accueillerons très amicalement. Nous leur montrerons les faits et ils se feront leur propre opinion.
Pour aller à la rencontre de ces scientifiques, il faut marcher dans la neige, prendre un funiculaire et accepter d'affronter quelques minutes le froid de Davos. L'année dernière, la jeune militante suédoise Greta Thunberg était parmi eux. Elle avait dormi dans des petites tentes oranges installées pour les scientifiques. Sa notoriété avait alors attiré du monde, mais cette année, terrassée par la grippe, c'est depuis le palais des congrès qu'elle a tenu à défendre leur combat.
Il y a une différence entre être entendu et parvenir à quelque chose. Je ne peux pas me plaindre personnellement de ne pas être entendue. Je suis entendue à longueur de journée. Mais malheureusement, la voix des scientifiques et de la jeunesse qui se mobilise n'est pas au cœur des conversations, alors qu'elle devrait l'être, parce que cela nous concerne et concerne notre avenir et celui des générations futures. Mais surtout, nous devons faire entendre la voix des scientifiques, parce qu'au fond, c'est cela qui est important.
Si le combat de la jeune militante a été tourné une nouvelle fois en dérision par le très climato-sceptique Donald Trump, il a reçu un soutien de taille, celui de Geeta Gopinath, la chef économiste du FMI.
Le risque climatique, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose que les pays peuvent contester. C'est un problème majeur. Ils doivent se réveiller et tout faire pour être à la hauteur.
Une position loin d'être partagée par la grande majorité des patrons de multinationales pour qui le risque climatique est loin d'être une priorité.
Mounia Daoudi, on vous retrouve en direct de Davos. Juste avant le démarrage de cette semaine, la multinationale de l'audit PwC, PricewaterhouseCoopers, avait publié une enquête auprès de 1600 chefs d'entreprises internationales, des grandes entreprises. Elle les avait interrogés sur leur position vis-à-vis de la question climatique et il apparaît très nettement que c'est le cadet de leurs soucis. Est-ce que c'est ce que vous avez perçu à Davos ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment le risque climatique qui est loin d'être une priorité. Alors, on en parle, effectivement, c'est important, on essaye on comprend l'inquiétude, mais ça continue à ne pas être du tout une préoccupation pour les chefs d'entreprise. Leur préoccupation reste la surrégulation, c'est un peu une constante depuis des années, et l'étude de PwC le montre bien. Il y a eu ensuite, depuis 3-4 ans, tous ces phénomènes liés à la géopolitique, aux conflits commerciaux, et puis surtout, ce qui vraiment les inquiète, c'est la volatilité de la situation économique qui est aujourd'hui pour eux le principal frein à leur développement. Et l'environnement, les questions environnementales, elles arrivent loin derrière, elles ne sont qu'en 12e position, elles ne sont même pas dans le top 10 des facteurs de frein à la croissance. Alors, il y a deux explications à ça. Soit ces chefs d'entreprise, ces patrons de multinationales ne sont pas vraiment conscients du risque que représente l'urgence climatique, soit au contraire ils le sont. Et cette prise de conscience, elle est bien réelle, mais ils ne savent pas du tout comment y faire face.
Merci Mounia Daoudi, en direct de Davos. Nous continuons cette conversation avec Michel Aglietta et Pierre-Noël Giraud, les deux invités d'Éco d'ici Éco d'ailleurs. Michel Aglietta, ce que Mounia Daoudi vient de dire, c'est une concrétisation de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces institutions que sont les grandes entreprises ne savent pas comment se comporter face au réchauffement climatique. Les institutions sont dépassées par la crise.
C'est une véritable tragédie. Les institutions du néolibéralisme sont exactement à l'opposé du régime de croissance qu'il faut viser, n'est-ce pas ? Et donc, on voit bien que le processus ne peut être enclenché que par un retour de la prépondérance du politique sur le libéralisme. Et ceci est évidemment fondamental. Donc, la grande responsabilité, elle est liée au fait que les économistes Et ceci, c'est depuis, en fait, la conférence de Rio de 1992, ont agi de telle manière qu'ils ont aidé à réchauffer la planète le maximum. Bon, il y a des rapports de force, il est clair que les lobbies, à travers le néolibéralisme, ont pris le pouvoir, notamment le type d'entreprise dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de capital qui s'est produite en 40 ans qui est effrayante. Concentration de capital a entraîné une économie de rente, une économie dans laquelle les surprofits ont eu comme conséquence, à l'opposé, la fragmentation de la société, avec un développement extraordinaire des inégalités, comme on ne les avait pas connues depuis le début du XXe siècle, avec la pauvreté et avec, en réalité, véritablement, une mise en cause de la cohésion de la société. Ça, c'est crucial. Et la contrepartie de ça, c'est cette énorme économie de rente, hein. Vous avez des rentes digitales qui sont invraisemblables.
C'est-à-dire les grandes multinationales.
Oui, que les GAFAM ont deux choses qui sont invraisemblables.
GAFAM, il faut dire, c'est Google, Amazon,
invraisemblable,
etc.
Par rapport à une économie de marché. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de développer le commerce Internet pour n'importe quel PME sans passer par une plateforme. Les GAFAM monopolisent toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement dominantes dans le monde de l'économie digitale et donc du commerce, de l'e-commerce. Elles sont l'e-commerce elles-mêmes. Personne ne peut aller sur une autre plateforme qu'elles. Donc, j'en ai jamais vu ça, si vous voulez. Il y a des marchés qui ont été monopolisés largement. On peut toujours les trouver à côté. Là, c'est le marché. C'est elles. Elles sont le marché. Ce qui est invraisemblable, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y ait pas de loi antitrust qui ont commencé. Maintenant, on commence à en parler aux États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, les données, les data. C'est assez invraisemblable. Vous avez une matière première nouvelle de l'économie digitale. Cette matière première n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'elle est captée par tout ce que nous donnons comme données, comme informations. Lorsque nous allons sur Internet, d'une manière ou d'une autre, est complètement capté par 5 entreprises, si vous voulez, à prix zéro. Donc, vous avez une rente invraisemblable. Bon, il n'y a pas que ça. La rente financière est gigantesque. Qu'est-ce qui s'est passé avec le capitalisme des 40 dernières années? Une énorme concentration dans la finance. Ça s'est produit à la fin du 19e siècle et c'est pour ça que les lois antitrust sont arrivées, si vous voulez, parce qu'on avait véritablement des monopoles formidables qui à l'époque étaient les industries de matières premières. Maintenant, les monopoles sont dans le digital et sont dans la finance fondamentalement. Et donc la conséquence de ça, ça a été de cette concentration de capital, c'est une transformation radicale de la répartition des revenus et par conséquent l'incapacité de refabriquer du lien social.
Michel Aglietta, on sent votre indignation. Pierre-Noël Giraud, vous la partagez? Est-ce que l'économie de marché telle qu'elle fonctionne aujourd'hui conduit en quelque sorte l'humanité à sa perte?
Non, ce avec quoi je suis entièrement d'accord, c'est que il y a une contradiction entre l'idéologie libérale, qui est fondée sur la concurrence, et la réalité des capitalismes actuels, qui est de plus en plus de monopoles. Donc, c'est pourquoi, moi, je suis absolument persuadé que l'ère néolibérale, l'idéologie néolibérale, est morte. Oui. Donc, maintenant, le jeu se présente comme un jeu entre de très grandes firmes, qui ont une puissance absolument considérable, et les États. Avec ce phénomène que Braudel avait déjà mis en évidence dès le XVe siècle, que les firmes sont globales, alors que les États, par définition, sont souverains sur un territoire réduit. Si bien que le problème institutionnel, c'est-à-dire le problème de fixer des règles pour encadrer le développement des firmes, dans le bon sens, par exemple dans le sens d'une protection du climat, devient un problème international, intergouvernemental. Et on constate que ce sont évidemment les problèmes les plus difficiles et qu'on n'y parvient pas. C'est-à-dire, l'accord de Paris est un accord de principe entre États, mais on attend toujours le début de la mise en œuvre de cet accord. Donc nous sommes bien dans un capitalisme aujourd'hui dominé par des firmes globales dont le pouvoir excède le pouvoir de chacun des États et donc devant une impuissance des États à mettre en œuvre, mais même à définir quelles sont les nouvelles règle qu'on veut que ces monopoles mondiaux appliquent.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des défis climatiques et inégalitaires que le système économique international doit relever à travers deux livres et leurs auteurs, Pierre-Noël Giraud et Michel Aglietta. Michel Aglietta, dans le livre que vous publiez, L'ère des ruptures chez Odile Jacob, apparaît une notion nouvelle que vous avez inventée, je crois, et qui est la notion de capitalocène. Alors ça, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous dire, sans être trop abscons, ce que c'est que ce capitalocène, que l'ère capitalocène ?
C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Je vais dire qu'il y a Malm, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont mis en avant cette idée. C'est le fait que tout le monde a entendu parler de l'anthropocène. C'est-à-dire le fait que la nature a été mise sous la coupe des sociétés, de l'humanité, qui l'a utilisé comme des ressources supposées inépuisables, comme des ressources qu'on capte, etc. Et évidemment, le problème qu'on a, c'est le retour de la nature dans son interaction avec la société qui se manifeste à la fois par les raretés des ressources, à travers les dérèglements, si vous voulez, de toutes les caractéristiques, pas seulement du climat, mais de la biodiversité, des cycles du carbone, des cycles de l'azote, etc. Les scientifiques ont mis en avant des limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Si on les dépasse, l'espace de viabilité de l'interaction de la nature et de la société est mis en cause. Bon. On est justement à la frontière de ça. D'où l'importance, d'ailleurs, de la révision de l'accord de Paris de 2020. Il faut tripler les intentions qu'ils avaient données en 2015. Tripler les intentions que les gouvernements mettent en ressources pour pouvoir embrayer un processus de transformation de la société vers le bas carbone. Bon.
Revenons au capitalocène.
Alors, le capitalocène, c'est une idée donc plus générale, c'est de dire ce qui est si vous voulez, contradiction qui s'est produite entre la société et la nature. Du fait que la société a capté la nature, si vous voulez. C'est le capitalisme qui l'a fait dans son développement. Et en particulier, c'est vrai que moi, quand j'ai écrit la théorie de la régulation, je l'ai fondée sur les contradictions du rapport salarial, je l'ai très peu fondée sur les contradictions que entraînait l'énergie par rapport au développement du capitalisme. C'est la capture de l'énergie a été un élément essentiel. Le capitalisme du 19e siècle, c'est en effet la domination de l'Angleterre, mais par l'énergie charbon, c'est-à-dire. Hein, en quelque sorte, tout se passe comme si il y avait à chaque époque de l'histoire une énergie dominante qui définit le bien, le prix de marché fondamental, qui a été le charbon jusqu'à la fin du 19e siècle. Ensuite, savoir pourquoi il s'est produit ce qui s'est passé, c'est-à-dire la contradiction entre les puissances. Et finalement, émerge le pétrole qui devient déterminant avec les États-Unis à partir de 1945-1950. Donc vous avez deux situations internationales, puisque on a parlé de l'aspect international. L'aspect international, pour le comprendre, il faut comprendre le système monétaire international. Eh bien, vous avez un capitalisme sterling, or, c'est ce qu'on disait, mais sterling or charbon. Et un autre qui est dollar pétrole, dollar pétrole. Bon. Eh bien, le point fondamental, c'est ça. C'est-à-dire que la transformation qui est requise aujourd'hui, c'est de sortir d'une logique dans laquelle il y a une ressource de base qui est déterminée entièrement par l'accumulation du capital, et qui apparaît comme...
Mais cette ressource, c'est le pétrole ?
Et actuellement, c'est encore le pétrole.
Mais pourquoi est-ce que cette ressource est déterminée par l'accumulation du capital ? Quel est le lien entre le pétrole et l'accumulation du capital ?
C'est la matière première de tout.
Parce absolument que tout à l'heure, vous disiez que l'accumulation du capital était le fait des grandes entreprises, des GAFAM, des entreprises de l'Internet.
Non, je disais que dans le cadre des transformations qui se produisent dans le capitalisme de l'après-Deuxième Guerre mondiale, il y a un premier régime de régulation sur la base du pétrole, dollar et développement de l'industrie manufacturière. Et puis, il y a ensuite le passage à un néolibéralisme dans lequel la finance a capturé essentiellement l'ensemble des processus d'évolution et où le problème aujourd'hui qui se pose est celui de dépasser l'économie pétrole. Et ce qu'on fait apparaître, si vous voulez, c'est que l'antagonisme qui se produit entre les États-Unis et la Chine est autour de la question de la forme de l'énergie déterminante de ce siècle. La Chine visant véritablement en une économie de l'électricité. Pour sortir du pétrole, parce que sortir du pétrole, pour elle, c'est sortir les États-Unis d'Asie aussi. Hein. Et ce qui se développe en conséquence et qui est dangereux, de la même manière qu'au début du 20e siècle, le développement de l'Empire allemand a détruit l'ordre libéral anglais, hein, dominé par l'Angleterre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez une divergence qui est en train de se faire entre deux types de systèmes techniques, l'un dominé par les États-Unis, l'autre dominé par la Chine, et où la forme de l'énergie est le déterminant qui fait diverger les deux types de systèmes techniques.
Pierre-Noël Giraud, vous en pensez quoi de cette divergence, de cette analyse de Michel Aglietta?
L'électricité, ce n'est qu'une énergie secondaire. Hein. L'électricité, il faut la fabriquer. Alors, soit avec du solaire et du nucléaire, de l'hydraulique et de l'éolien sans émission de carbone, soit avec des centrales à charbon et à gaz. Donc, attention, je pense que l'électrification des transports va être un phénomène absolument général. La voiture électrique est l'avenir de la voiture. Mais comment va-t-on fabriquer l'électricité qu'on va mettre dans les voitures électriques? Là est la question. Et de ce point de vue-là, la Chine, malgré son effort nucléaire, reste massivement dépendante du charbon et du gaz. Bon, donc je ne crois pas que la Chine soit en train de sortir beaucoup plus vite du système des énergies carbonées. Elle en a l'intention, ça c'est exact, parce qu'elle a compris que le système technologique de l'avenir, c'est un système sans carbone. Donc, comme toujours les Chinois qui pensent stratégiquement, se sont dit, on va essayer de dominer ce secteur-là aussi. Mais si vous prenez la Chine dans son ensemble, ça reste le plus grand émetteur de carbone aujourd'hui. Et d'autre part, une chose sur laquelle j'insiste, vous avez dit que je m'intéresse à la fois aux matières premières en amont et puis aux globalisations, on n'a pas de problème de ressources. On a déjà beaucoup trop de pétrole, beaucoup trop de charbon, beaucoup trop de gaz par rapport à ce qu'on peut se permettre d'en brûler. Et n'oublions pas que l'énergie est extraordinairement abondante. L'énergie qui tombe sur une surface du Sahara égale à la Suisse, cette énergie-là est capable de satisfaire les besoins du monde entier.
Mais ça, c'est le solaire.
Oui, c'est le solaire. L'énergie solaire qui tombe sur une surface du Sahara égale à la Suisse est capable de fournir l'énergie du monde entier. Donc, on n'a pas de problème de ressources. Il s'agit de cesser de produire de l'électricité qui est le vecteur énergétique d'avenir, c'est évident. Il faut cesser de produire de l'électricité avec du charbon, du pétrole et du gaz et de produire autrement.
Mais quel est le lien entre ce renouveau de l'énergie et les modes d'accumulation du capital, de rente que souligne Michel Aglietta?
Non, mais il est certain, je suis d'accord avec ça, qui est en fin de compte une forme d'autocritique de Michel Aglietta, qui dit que dans la théorie de la régulation, on a un peu oublié la nature. Il faut la faire
théorie
rentrer.
De la régulation de Michel Aglietta.
Oui, de Michel Aglietta et d'autres, Robert Boyer, etc.
Toute l'économie.
Mais on peut dire ça de toute l'économie.
Bien sûr.
Et Nordos, c'est vrai, je partage votre indignation. C'est-à-dire donner à Nordos un prix Nobel alors que
Nordos, ce qu'il a écrit.
Mais Nordos a écrit toute une série d'articles où il aborde la question du changement climatique comme en effet un pur problème économique. C'est-à-dire combien devons-nous dépenser aujourd'hui pour éviter un inconvénient qui arrivera dans 100 ans. Alors il faut que je prenne, vous avez un taux d'actualisation. Enfin, ça ne relève pas du calcul économique. Ça relève du principe de précaution et de la compréhension des phénomènes, des grands cycles que nous sommes en train de perturber. Donc, pas seulement Nordos. Il y a d'ailleurs Antonin Potier a fait un petit livre qui s'appelle « Comment les économistes ont réchauffé la planète ». Je le recommande. Pas seulement Nordos, mais toute la pensée économique a traité de la question de l'effet de serre et des pollutions en général de manière étroitement économiste, qui est totalement en dehors du sujet. C'est ça qu'on peut dire.
Mais alors, Michel Aglietta, comment réformer ce capitalisme que vous jugez si sévèrement aujourd'hui, ce néolibéralisme dont vous dites que Pierre-Noël Giraud qu'il est terminé, comment réformer l'économie, le fonctionnement de l'économie pour qu'il maintienne l'espèce humaine en vie, si on peut aller aussi loin que cela?
Oui, ben c'est ce qu'on appelle le développement durable ou la croissance soutenable et inclusive. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est absolument crucial dedans, c'est que la transformation écologique est nécessaire, donc une écologie politique, elle dépend de la compréhension par les États du rôle d'orientation qu'ils doivent donner au développement industriel à venir, hein. Écologie politique et inclusion sociale, c'est-à-dire réduction des inégalités, principe de justice, est absolument complémentaire, indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est toute la société qui doit agir pour pouvoir aller dans le sens qui est nécessaire d'une économie bas carbone. C'est pas une élite, c'est pas un certain nombre de gens, c'est pas uniquement certains agents économiques. Toute la société doit être impliquée. Et vous ne pouvez pas le faire, si vous voulez, avec un processus qui accroît les inégalités en permanence dans la société. Le mouvement des Gilets jaunes est tout à fait clair de ce point de vue-là. Hein, c'est que il y a, si on ne va pas retrouver un principe de justice sociale, et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le grand philosophe Rawls, parce que c'est sur cette base-là, en effet, on part de la notion de bien premier chez Rawls. Et les biens premiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire des biens communs, hein, ou réalisés tels. Il faut que chacun ait un logement décent. Que le principe que l'éducation de base soit valable pour tous, que la santé soit valable pour tous, qu'il y ait une sécurité environnementale et une sécurité en général. C'est ça les biens premiers. Eh bien, l'idée, Rawls dit la chose suivante et avec lequel je suis totalement d'accord, les libertés réelles et pas seulement formelles ne sont possibles que si les biens premiers sont disponibles pour toute la population. Ce qui veut dire que la pauvreté est privation de liberté. Et ça, c'est une notion très forte. Et donc, la transformation, vous voyez, sociopolitique à faire, renvoie à cette relation-là.
Alors, il y a un pays qui peut illustrer parfaitement ce que vous dites, Michel Aglietta, ce que vous dites aussi, Pierre-Noël Giraud, dans votre livre, c'est l'Afrique du Sud. Selon le dernier rapport de l'Institut National des Statistiques Sud-Africains, 25 ans après la fin de l'apartheid, les Blancs sud-africains gagnent toujours 3 fois plus que les Noirs. À cause de la configuration des grandes villes conçues sous l'apartheid, ces inégalités sont renforcées par le manque de mobilité et d'accès aux transports dans certains quartiers. À Johannesburg, par exemple, où la voiture est reine, bien souvent les zones les plus pauvres se trouvent complètement isolées des centres d'activité. C'est un reportage éco-dissier d'ailleurs, signé Claire Bargelès à Johannesburg.
Avant même le lever du soleil, les rues du township de Soweto sont déjà parcourues par des travailleurs sans voiture. Ils sont en quête d'un taxi collectif pour traverser la ville. Parmi eux, Siabonga, 28 ans, travaille dans un bureau de poste à une trentaine de kilomètres de là.
Voyons, quelle heure est-il? Je crois environ 5h15. Je pars aussitôt parce que sinon, un peu plus tard, les bouchons sont beaucoup trop importants.
Il doit passer par le centre-ville pour attraper un second taxi vers son lieu de travail.
Nous voilà au garage de taxi de Brie. Il faut qu'on change de taxi, je n'avais plus l'œil sur ma montre, je suis en retard ce matin.
Plus d'une heure après son départ, Siabonga est arrivé. Un déplacement qui lui coûte cher, puisque par mois, ses frais de transport dépassent le loyer qu'il paye pour sa petite chambre dans Soweto.
C'est une routine quotidienne, mais c'est très coûteux. 52 rand, 50, aller-retour, c'est un problème pour nous.
Selon des études universitaires, les travailleurs les plus pauvres dépensent plus de 15% de leur salaire en transport. Pour l'économiste Chedza Madzima, le gouvernement n'a pas réussi à transformer les villes après la fin de l'apartheid.
Les inégalités spatiales n'ont pas beaucoup changé et les actions mises en place par le gouvernement n'ont pas été assez efficaces. Si on prend par exemple le programme de construction d'habitations pour les populations qui ont été défavorisées, beaucoup sont toujours construites dans ces zones très denses qui n'offrent pas beaucoup de services et qui sont loin des emplois.
Car le régime de l'apartheid a créé des espaces pour les populations non blanches, les townships, complètement fermés sur eux-mêmes, comme le rappelle l'historien Nour Niftarodien.
L'apartheid, surtout à partir des années 50, a reconfiguré les villes pour déplacer les populations noires loin des centres urbains. Les Noirs ne pouvaient aller dans ces zones urbaines que pour travailler, mais elles ne leur appartenaient pas. Si on ajoute à cela le rôle central de la voiture comme un mode de transport clé pour les classes moyennes, on a aujourd'hui un modèle d'organisation géographique très improductif. Les Sud-Africains noirs passent souvent plus de temps à se déplacer qu'à faire d'autres choses.
Il y a eu depuis des tentatives pour développer les transports publics, mais ce sont deux systèmes parallèles qui se sont développés, avec d'un côté la voiture et le train express pour les plus riches, et de l'autre le train de banlieue et le bus, beaucoup moins efficaces pour les plus pauvres. Lénée Leroux est urbaniste et cofondatrice du groupement Urbaniste pour l'équité.
Le système de transport public, comme par exemple le train de banlieue, ne fonctionne pas bien. C'est peu cher, mais c'est très lent et les lignes sont souvent en panne. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à avoir un système de transport public pour tous, où tout le monde serait bien intégré.
Le chemin est donc encore long pour se détacher des structures héritées de l'apartheid et mieux desservir ces zones où le chômage atteint des records.
Un reportage signé Claire Bargelès à Johannesburg. Pierre-Noël Giraud, cette difficulté à se déplacer, cela recoupe certaines des choses que vous dites dans ce livre, L'inégalité du monde, publié chez Folio, où vous rappelez ce que vous aviez écrit dans un autre livre, L'homme inutile, qu'il y a des gens qui sont condamnés à être dans cette économie moderne inutile.
Oui, ce que met en évidence ce reportage, et moi ce qui m'avait beaucoup frappé lors de mon dernier voyage en Afrique du Sud, c'est qu'en effet, le long des autoroutes périurbaines en Afrique du Sud, vous avez les blancs dans les voitures et les noirs qui marchent à pied, qui font des kilomètres et des kilomètres le long de l'autoroute. Bon, qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre qu'une des causes fondamentales des inégalités, c'est les inégalités d'accès. Michel Aglietta l'a dit, si on n'a pas accès à l'éducation de base, si on n'a pas accès à une santé normale, on est nécessairement on tombe dans des trappes de pauvreté, voire ce que j'ai appelé des trappes d'inutilité, où la société ne vous emploie même pas. Donc vous dépendez d'une forme ou d'une autre d'assistance. Bon. Donc ces inégalités d'accès sont une des causes fondamentales des inégalités en général, des inégalités de revenus, etc. C'est l'accès, on l'a dit, à l'éducation, à la santé, à la ville, donc aux autres, et ça c'est fondamental. Cela dit, en Afrique du Sud, le problème est lié en partie à l'apartheid, mais cette question se retrouve dans toutes les villes africaines en croissance extrêmement rapide, parce que ce sont des villes qui croissent horizontalement, c'est normal, et donc la question des transports pour ceux qui sont les derniers installés en périphérie des villes est une question africaine, et d'une manière générale des zones en développement rapide, Asie du Sud, absolument fondamentale, et dont les dimensions écologiques sont décisives, puisque pour l'instant, la circulation, hein, c'est voiture pour les riches, bus ou train de banlieue pour les autres, mais tout ça c'est du carbone. Donc on voit bien le double défi, on le voit concrètement. Un, le défi social, il faut donner accès à la ville et aux autres, à tout le monde. Et deuxièmement, le défi environnemental, il faut le faire sans l'aide uniquement des carburants fossiles. C'est le problème de l'urbanisation.
Pour vous, Michel Aglietta, les dynamiques d'inégalité se sont accentuées depuis la crise de 2008. Et les réponses à la crise de 2008 ont accentué ces inégalités dont parle Pierre-Noël Giraud.
Ah oui, d'après les données qu'on a, de toute façon, elles l'ont fortement. C'est-à-dire, c'est la manière dont on est sorti de la crise de 2008 n'a pas été une transformation des causes de la crise. Hein. Elle a été d'essayer de sauver la finance. Et les banques centrales ont fait ça. Sauver la finance était l'essentiel.
Sauver les banques.
Ouais, les banques, les marchés, disons la totalité de la finance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est d'énormes injections de monnaie qui n'ont pas servi à être la base d'une transformation structurelle du territoire, justement, par exemple. Hein. Mais qui ont essentiellement servi à faire alors une économie de casino, pour le dire. Hein, je veux dire. C'est-à-dire que il y a une épargne gigantesque, il y a des investissements productifs qui ont baissé. Ce qu'on voit apparaître, c'est la baisse d'investissements productifs en termes de pourcents du produit intérieur brut partout, dans tous les pays dits avancés. On voit aussi la productivité, le rythme de croissance de la productivité a ralenti de plus en plus. et on arrivait à ce qu'on a appelé stagnation séculaire. Pendant ce temps-là, une quantité énorme de monnaie n'a cessé de progresser. Le résultat, ça a été d'abord de généraliser à l'ensemble du monde le développement de l'endettement qui en a résulté, c'est-à-dire que les grandes entreprises multinationales se sont essentiellement transformées en banques d'affaires. Elles font la même chose, de l'arbitrage financier, elles investissent, elles achètent des entreprises ailleurs, dans les pays émergents, ou bien elles leur prêtent de l'argent, etc. Donc, vous avez un développement du capitalisme financier qui a absolument tout dominé. Et le résultat a été une accentuation de tous les problèmes qu'on avait rencontrés avant 2008. Si vous voulez, ce qui se passe en quelque sorte... au lieu que ça soit des ménages qui ont vraiment subi tellement la crise de 2008 qu'il y a eu du côté de l'immobilier un certain, ça s'est un peu calmé d'une certaine manière, ça ne reprend d'ailleurs que maintenant, mais c'est le secteur des entreprises qui s'est endetté de manière gigantesque partout. Mais il s'est pas endetté pour investir et pas endetté pour produire. Il s'est endetté pour essayer de gagner de l'argent avec l'argent. Hein, c'est-à-dire un processus d'arbitrage. J'émets des obligues à bas coût grâce des obligations à bas coût grâce aux banques centrales. Et donc j'obtiens des liquidités. Et je vais prêter dans un pays émergent, éventuellement y acheter des obligations, en espérant faire un profit d'arbitrage.
Et Pierre-Noël Giraud, cette dynamique que décrit Michel Aglietta, est-ce qu'elle a un impact sur la pauvreté globale, sur les inégalités et sur le développement du CO2, de l'usage du CO2?
Oui, évidemment. Je veux dire, la croissance des inégalités, c'est déjà ce que j'avais montré dans la première édition de mon livre il y a 20 ans. Ce que j'ai appelé les globalisations, c'est-à-dire l'existence de firmes globales qui mettent en compétition tous les territoires pour la localisation de tous les activités et les emplois qui produisent des biens et des services qui s'échangent. Donc, tous les territoires sont mis en compétition par un ensemble restreint de firmes globales. Ces firmes globales elles-mêmes sont mises en compétition par les fonds d'investissement qui exigent d'elles des rendements financiers au moins égaux à celles des autres et de leurs concurrentes. Donc on a en effet un système hiérarchisé de mise en concurrence généralisée, des territoires par les firmes globales, des firmes globales par la finance globalisée. Et ce processus-là, alors, ne crée pas qu'une aggravation des inégalités. N'oublions tout de même pas que pendant cette période, la Chine a rattrapé, en ne suivant pas du tout la même politique, en suivant une politique étatique mercantiliste absolument opposée aux politiques du capitalisme libéral. Si bien que, et avec succès, si bien qu'aujourd'hui, on se trouve de nouveau, comme le disait Michel Albert il y a quelques années, dans une situation où c'est capitalisme contre capitalisme. Ce qui renvoie à la diversité théorique très vaste des capitalismes. On a aujourd'hui un capitalisme chinois qui est arrivé à parité technologique avec le capitalisme globalisé anglo-saxon, quasiment à parité technologique. Nous ne nous faisons aucune illusion là-dessus. Ils y sont et ils vont prendre le leadership dans un certain nombre de domaines, mais qui a un modèle institutionnel. Aglietta a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire un modèle de gouvernement tout à fait différent. Ce qui, je répète, montre encore, une fois de plus, la malléabilité des capitalismes. Il y a des capitalismes extraordinairement différents. Et donc, quand je veux être optimiste, me dire, on peut bien inventer un type de capitalisme qui à la fois réduise les inégalités et sauvegarde la planète.
Donc, on a le choix aujourd'hui entre deux capitalismes, l'américain, l'anglo-saxon et le chinois.
Il faut qu'on invente un européen. Ça, je peux en dire un mot.
C'est ce que la Commission essaye de faire tout récemment. Essayer d'en inventer un européen à partir de la notion de Green New Deal. C'est-à-dire mettre vraiment le paquet sur un projet structurant dans lequel, si vous voulez, la recherche de l'économie bas carbone, l'investissement d'infrastructures qui est nécessaire pour développer une économie bas carbone soit mise en priorité. Et il faut évidemment que les gouvernements l'acceptent. Mais en tout cas, c'est le projet de la Commission qui vient de sortir et qui va être détaillé, si vous voulez. C'est un élément important. Et il me semble, alors, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, que ce qui est crucial dans tout ça, c'est de changer la base industrielle du régime de croissance en passant de chaînes de valeur linéaires et mondiales qui créent un maximum de pollution à ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire qui est ancrée dans les territoires, dans lequel les déchets sont des inputs, dans lequel les entreprises...
Les déchets sont des inputs, les déchets sont des matières premières.
Elles deviennent des matières premières, donc des inputs, oui, le franglais là-dedans, des matières premières pour la production, etc. Ce qui crée à ce moment-là une interaction des entreprises qui leur donne un intérêt commun à être dans ce sens-là. Et restant à des niveaux territoriaux, ça permet de restructurer, de recomposer le territoire. Et où, en particulier, c'est ça que j'insiste beaucoup, deux choses deviennent essentielles. Une démocratie participative, à la fois parce que des sociétés coopératives d'intérêt commun peuvent se construire dans des territoires, donc de nouvelles institutions, pour pouvoir développer une stratégie de progrès de projets au niveau territorial, reconstituer les villes moyennes, la relation entre villes moyennes et agriculture, etc., est possible si si vous voulez, la direction politique descend au niveau où les citoyens sont. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser fortement, à ce moment-là, la responsabilité politique au niveau des collectivités
locales. La fin des chaînes de valeur, Pierre-Noël Giraud, c'est la fin de la mondialisation, de la globalisation, des globalisations?
Non, nous sommes entrés dans une nouvelle étape des globalisations. L'étape néolibérale de ces 40 dernières années s'est terminée avec l'élection de Trump, le Brexit. Bon. Et donc, l'enjeu maintenant est en effet de savoir si on peut trouver un modèle de capitalisme européen qui soit plus satisfaisant pour nous et pour le monde. Alors, Michel Abligata met l'accent sur le niveau local, territorial, y compris sur le plan politique. Il y a quand même malheureusement un très grand obstacle, c'est qu'il faut que l'Europe ait une politique commerciale extérieure. Je ne dis pas du tout qu'il faut qu'elle soit protectionniste comme Trump, je pense que la méthode est mauvaise, mais l'idée de Trump de rapatrier sur le territoire américain un certain nombre d'emplois est une bonne idée, parce que l'Amérique s'est vidée de ses emplois nomades totalement. Bon. Simplement, il s'y prend mal. Mais moi, je pense qu'on devrait faire comme les Chinois. C'est-à-dire, quand une grande firme globale veut développer, Airbus veut vendre des avions en Chine, on lui dit très bien, mais venez les fabriquer en partie en Chine. Bah, maintenant, il faut dire aux Chinois, vous voulez vendre en Europe, très bien, venez fabriquer en partie en Europe. Voilà. Donc, mais qui va faire ça?
Ça peut être compatible avec le projet chinois des routes de la soie.
Hein. Absolument, absolument. Les Chinois sont prêts à coopérer là-dessus. Simplement, si on leur pose aucune condition, c'est-à-dire, allez-y, l'Europe est un ventre mou, ouvert, vendez tout ce que vous voulez, ben, ils vont le faire. Bon. Donc, je pense qu'il faut, des politiques européennes. Ouais. Et moi, je pense qu'on peut avoir des politiques européennes que dans une Europe resserrée. Un premier cercle et pas, il faut qu'il y ait une Europe resserrée qui va vers le fédéralisme avec des politiques extérieures et une politique de puissance. Et autour, il faut une Europe qu'on aide à rattraper.
Ça sera un autre débat, Michel Aglietta, Pierre-Noël Giraud. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je rappelle vos livres, Capitalisme, le temps des ruptures chez Odile Jacob pour Michel Aglietta et L'inégalité du monde chez Folio Actuel pour Pierre-Noël Giraud. Les titres et les maisons d'édition de ces deux livres sont sur le site internet RFI à la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, page sur laquelle vous pouvez d'ailleurs nous réécouter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs sur RFI.
Tout à l'heure sur...